Deuxième partie, Merci Connard. Chapitre 8, Gina, 12 juillet 2018. Je suis arrivée à hier en début d'après-midi. La maison d'hôte dans laquelle je vais passer la nuit est perchée sur la colline qui domine la ville. Le point de vue est, à lui seul, une invitation au voyage. Depuis la terrasse de ma chambre, un entrelac de toitures provençales, quelques éclats de linge colorés séchant aux fenêtres, des murs ruisselants de bougainvillées, puis au loin, le bleu dense de la Méditerranée, parsemé de voiles blanches, sans doute en route pour l'île de Porquerolles, qui clôt le spectacle et referme la baie. Il ne me faudra que quelques minutes de marche pour parvenir à ma deuxième étape, au numéro 6 de la rue Saint-Esprit. Tout un programme, d'autant que l'homme que je viens voir n'a plus toute sa tête, d'après sa belle-fille. Celle-ci m'a invité à passer prendre le goûter lorsque je l'ai contactée. J'ai trouvé ça sympathique sur le coup, puis, à la réflexion, très vexant. Un goûter, c'est ce qu'on propose à des gens qu'on imagine coucher à 19h, des enfants ou des vieux, donc. Je lui ai indiqué être une amie de longue date de son beau-père, j'ai menti. Je ne connais pas grand-chose de lui, mis à part qu'il était dans sa jeunesse un petit con arrogant. Il est plus que temps de l'en remercier. Nous sommes le 2 décembre 1959. J'ai 26 ans, je vis à Nice. Je suis femme de chambre à l'hôtel Negresco. J'y travaille depuis 5 ans et accepte de temps à autre des petites missions que me confie le concierge de l'hôtel, moyennant une rémunération complémentaire, non déclarée évidemment. Ce mercredi-là est un jour de repos, mais j'ai accepté de convoyer une lettre d'un client de l'hôtel jusqu'à son mystérieux destinataire à Marseille. Je ne sais pas ce que contient l'enveloppe épaisse, mais ça pourrait être illégal. Je ne pose pas de questions, j'ai besoin d'argent, j'exécute, point. La mission est simple. Prendre l'autorail du matin en direction de Marseille, livré à l'adresse indiquée, un immeuble situé sur le Vieux-Port, et revenir à Nice par l'autorail du soir. 3 heures aller, quelques heures sur place, 3 heures retour. Le trajet n'est pas désagréable, les wagons sont chauffés, on aperçoit souvent la mer et j'ai du temps pour lire. Depuis quelques années, je dévore ces nouveaux bouquins pas chers que l'on appelle « livres de poche ». Pour 2 francs, soit le prix d'un journal, c'est la garantie d'heures d'évasion. J'ai choisi « Gigi » de Colette, car j'ai appris dans une revue oubliée dans une chambre du Negresco que le livre avait été porté sur les planches, en Amérique, avec cette actrice qui me fascine, Audrey Hepburn. En compagnie de Gigi, le trajet passe à une vitesse folle. Je trouve facilement l'adresse indiquée à Marseille, je dépose la lettre, puis je flâne un peu. Pour finir par remonter la canebière au pas de course, car il s'est mis à pleuvoir très fort. Le genre d'épisode méditerranéen de type fin du monde, avec ses rues inondées en quelques minutes et ses coups de tonnerre qui réveillent les morts. Je traverse le boulevard Garibaldi et m'apprête à bifurquer en direction de la gare Saint-Charles lorsqu'une Renault Dauphine rouge vif déboule à toute berzingue et m'envoie valser. Le conducteur a freiné trop tard et n'a pas anticipé la donnée suivante. Sur chaussée glissante, une voiture glisse. Je suis projeté sur le trottoir, j'entends quelque chose craquer. Je sais que ma tête n'a rien heurté, mais je ne peux faire autrement que de rester allongé sous la pluie battante, car la douleur dans mon épaule et mon bras gauche est trop forte. Je ferme les yeux, entends des voix appeler les secours, puis des bras me déplacent à l'intérieur d'un restaurant. Lorsque l'ambulance et la police arrivent, je suis parvenu à m'asseoir. J'ai froid car je suis trempé. Mon épaule va déjà mieux, mais mon avant-bras me fait atrocement souffrir. J'aperçois la Dauphine garée juste en face. Un policier s'approche, souhaite savoir s'il peut m'interroger quelques minutes ou si je préfère me rendre tout de suite à l'hôpital. Je suis d'accord pour parler de ce chauffard, prêt à l'insulter copieusement, attendant des excuses, mais le policier me demande « Pour quelle raison avez-vous tenté de mettre fin à vos jours ?» Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Je le lui dis, il reformule. D'après le conducteur de la voiture, vous avez surgi de nulle part et vous vous êtes jeté sous ses roues. Je le cite, Heureusement que j'ai gardé mon sang-froid, j'ai freiné, mais je n'ai pu éviter de la frôler. Elle a perdu l'équilibre, mais ça aurait pu être bien plus grave si je n'avais pas eu le réflexe de me déporter vers la gauche. Je suis stupéfaite. Je serre les poings, mais la douleur rayonne dans mon bras. Monsieur l'agent, je n'ai jamais tenté de me tuer. Vous connaissez beaucoup de candidats au paradis qui se suicident en traversant sur un passage piéton ? C'est ce chauffard qui... Madame, permettez-moi de vous interrompre. Le conducteur est choqué, la voiture n'a rien, ce qui corrobore sa version des faits, et un témoin affirme vous avoir vu foncer volontairement sur le véhicule. Il fait un signe de tête, m'indiquant deux personnes assises un peu plus loin. Il y a là un jeune homme, apparemment de bonne famille, souliers vernis et raies de côté. Le témoin de la scène, assis à côté de lui, est un gamin d'une quinzaine d'années, pantalon sale et chemise jaunie. Le policier les convoque pour ce qu'il nomme une confrontation, mais que j'appellerais plutôt une mascarade. Le conducteur se nomme Antoine Barthes. Il a 22 ans et affiche un air bien trop contrit pour être honnête. Quant au témoin, il ne cesse de jeter des coups d'œil en direction de l'autre, comme s'il cherchait son approbation. Alors je comprends tout. La voiture m'a bousculé, mais mon poids-plume n'a laissé aucune trace sur la carrosserie. Antoine Barthes a eu le temps de garer son véhicule, puis de soudoyer un garçon des rues pour qu'il témoigne en sa faveur. Je plante mes yeux dans ceux du témoin. « Il t'a payé combien pour que tu mentes comme ça, hein, gamin ?»« Mademoiselle, je ne vous permets pas. » Antoine Barthes joue l'offusqué, ce qui me conforte dans mon analyse, tout en m'agaçant passablement. Le policier intervient. « Madame Lizy, je vous conseille de ne rien insinuer de la sorte. Je connais bien la famille de Monsieur Barthes. Je peux vous dire que ça n'est pas le genre à se soustraire à ses responsabilités. » Je prends conscience que je n'ai aucune chance et que j'ai plus à perdre qu'à gagner. La voiture est intacte, le seul témoin corrompu, le policier ami de la famille. Il ne s'agirait pas qu'il reconstitue mon parcours à Marseille et en arrive à se poser des questions sur le contenu de l'enveloppe que je viens de livrer. Alors, la mort dans l'âme et la rage au ventre, je me convainc de laisser tomber. Je respire un grand coup. J'ai besoin qu'on s'occupe de mon bras maintenant. Et je change de ton. L'agent me demande de m'excuser auprès de ces messieurs. Et puis quoi encore ? Mais Antoine Barthes me devance. Il s'approche afin que le policier ne puisse plus voir son visage. Je n'oublierai jamais le regard vainqueur, humiliant qu'il me jette lorsqu'il conclut. N'en parlons plus. Je suis sûr que cette jeune femme est désolée. Mademoiselle, je vous pardonne bien volontiers votre désinvolture. L'instant d'après, je suis conduite à l'hôpital de la Timone. On me plâtre, puis on me garde en observation toute la nuit. Ce n'est que le lendemain matin, dans le hall d'accueil de l'hôpital, que je découvre les actualités. Une dizaine de personnes fixent, comme moi, ce reportage télévisé, montrant des images de désolation, et puis la tristesse, la colère, l'incompréhension dans les visages fermés de toute une population. La veille, peu après 21h, le barrage de Malpassé, situé sur les hauteurs de Fréjus, a cédé. 50 millions de mètres cubes d'eau se sont engouffrés dans l'étroite vallée du Réran, rayant de la carte des villages entiers et une partie de la ville. 423 personnes sont mortes. La voix monocorde du journaliste égrenant ces nouvelles ajoute une dimension sépulcrale. J'ai froid tout à coup. Et ma fracture du radius devient bien dérisoire. Je reste encore quelques minutes à fixer le poste de télévision, mais très vite, je ne supporte plus de voir ces paysages, ces témoignages. Je m'apprête à tourner les talons lorsqu'une mention, presque anodine, si on la compare au reste des annonces, stoppe mon élan. Le reportage évoque 3 kilomètres de voies ferrées arrachées et dévoile des images de l'autorail Marseille-Nice renversé, traîné dans une coulée de boue. Mon sang se glace. Je fouille la poche de mon manteau et en sors mon billet retour inutilisé. Mon Dieu, ce train! C'était le mien. J'aurais dû être dedans. Si je n'avais pas eu cet accident hier, Si Antoine Barthes ne m'avait pas renversée, je serais morte à l'heure qu'il est. Bien sûr, avec des si, on changerait le monde. Mais tout de même, je n'ai jamais pu m'empêcher de croire aux signes, aux horoscopes, aux voyantes, à la chance, au destin. Je n'ai plus jamais entendu parler d'Antoine Barthes depuis. Mais il est toujours resté là, quelque part, dans un coin de ma tête, dans la case détestable, mais aussi dans cette case improbable qui réunit les gens qui m'ont, un jour, sauvé la vie. La belle-fille d'Antoine Barthes s'appelle Célia. Elle est adorable. C'est une femme d'une quarantaine d'années, port de tête altier et cheveux noirs ramenés en un chignon strict, un peu rigide au premier abord, mais une vraie douceur dans le regard, dans les mots, dans les gestes. Elle m'accompagne dans le salon, et je suis surprise par la modestie apparente de la demeure. Peut-être qu'Antoine Barthes n'était pas d'une famille si riche que cela. Je pose quelques timides questions, ou plutôt prêche le faux pour savoir le vrai. À qui appartient cette maison? J'ai connu Antoine à Marseille, sa famille a déménagé. Et quand a-t-il mis fin à ses activités? De quoi déjà? Les réponses me confortent dans ce que j'avais perçu à l'époque. La famille Barthes vient bien de Marseille. Antoine a repris les commerces familiaux, florissant à la mort de ses parents. Mais il a mis la clé sous la porte 10 ans après. Je comprends, sans que Célia ne le formule ainsi, que c'est la légèreté avec laquelle Antoine Barthes a géré ses boutiques qui est en cause. Je ne dis rien, mais je ressens une sorte de jubilation coupable à l'idée que cet homme ait vu son trop-plein d'assurance causer sa perte. J'exagère un peu. Il n'y a pas eu de perte à proprement parler. La suite de son histoire n'a pas l'air si dramatique. Installé ailleurs, il est reparti de zéro, a monté un modeste commerce de vêtements et eut 2 enfants, dont le mari de Célia. La femme d'Antoine est décédée il y a 5 ans, et Antoine vit la plupart du temps en maison de retraite médicalisée, sauf quelques jours par mois, au cours desquels Célia et son mari l'accueillent ici, chez eux. J'entends une porte qui s'ouvre, puis des pas dans le couloir. Célia se penche vers moi, pose sa main sur mon bras. « Le voilà. Je vais vous laisser. Vous devez avoir des tas de choses à lui dire depuis le temps. Je vous ai prévenu au téléphone. Son Alzheimer s'installe progressivement. Il est possible qu'il ne vous reconnaisse pas. Il ne faut pas le prendre personnellement. Je vais faire du thé. Je vous en apporte une tasse ? » ? Oui, volontiers. Merci beaucoup. C'est très aimable à vous. » Je lui souris. Elle ouvre la porte, laisse entrer son beau-père, puis referme derrière elle. Me voilà en tête à tête avec Antoine Barthes, 59 ans plus tard. C'est un homme rabougri qui semble bien plus vieux que son âge. Il avance d'un pas hésitant, puis, étrangement, il s'assied sur le même canapé que moi, m'obligeant à tourner la tête pour lui parler. Il sourit, mais ne dit rien. Je ne suis plus tellement sûre de ce que je m'apprête à faire tout à coup. « Bonjour, Antoine. Vous me reconnaissez ?» Il secoue la tête, continue de sourire en silence. En 1959, le jour de la rupture du barrage de Malpassé, vous m'avez renversé avec votre voiture à Marseille. Vous vous souvenez ? Pas de réaction. Il approche son visage du mien, puis se redresse, comme si quelques neurones se reconnectaient. Bien sûr, je me souviens. Vous vous êtes jeté sous mes roues, une folle alliée, hystérique, ça oui. Monsieur Barthes, ça n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il s'est arrêté net, me regarde bizarrement. Qui êtes-vous, madame ? « Je viens de vous le dire. »« Ah, Gertrude, qu'est-ce qu'on a pu baiser tous les deux, hein ? C'était le bon vieux temps !» Il se penche vers moi et, sans que je m'y attende, essaie de me toucher les seins. J'ai un mouvement de recul que j'accompagne d'une tape sur la main comme je l'aurais fait avec un enfant. Je le fixe stupéfaite. Il sourit toujours, approche sa main de nouveau. Je recule de nouveau. « Monsieur Barthes, mon prénom est Gina, pas Gertrude, et vous m'avez renversé en 1959. »« Bien sûr que je t'ai culbuté et pas qu'en 1959. Allez Gertrude, fais pas ta farouche, viens voir ton toinou. » Il a pété un câble, le vieux vicieux. Je recule encore, puis décide de me lever. « Monsieur Barthes, je voulais vous remercier de m'avoir sauvé la vie, indirectement. Et puis je voulais aussi vous dire... » Je marque une pause, j'hésite. Il n'a pas toute sa tête, ça me semble clair. Et puis merde, on n'a qu'une vie. Je voulais aussi vous dire que vous êtes une belle raclure de bidet. Il est surpris, je jubile. Alors je hausse la voix. Mufle ! Ordure ! Je me mets à rire. Je laisse éclater ma joyeuse colère contenue depuis tout ce temps. Je vois bien qu'il ne comprend rien à ce qui est en train de se passer, mais il n'a pas l'air si étonné que ça. Tronc de figuier, tas de fumier malodorant, enclume. Arrêtez ça tout de suite. Célia vient de m'interrompre. Elle pose le plateau sur lequel trône une théière, deux tasses et des petits gâteaux secs. À quoi jouez-vous? Qui êtes-vous? Je m'apprête à répondre, mais Antoine Barthes est plus rapide. C'est Gertrude, la putain de la rue Tubano. Il exulte, ses yeux brillent. Je me demande même s'il n'a pas une érection à cet instant précis. Je ne veux surtout pas le savoir. Je demande à Célia de m'accorder quelques minutes. Nous sortons de la pièce et je lui déballe toute l'histoire. Elle m'écoute attentivement lorsque je lui propose ce qui trottait dans ma tête depuis le début. Me laisser insulter Antoine Barthes quelques instants contre dédommagement pécuniaire. Elle est choquée, c'est visible. On serait à moins. Elle me fixe, incrédule, et soudain, elle éclate de rire. « Vous alors, vous ne manquez pas de toupet ?» Elle refuse mon argent avec fermeté, puis se penche vers moi et me glisse sur le ton de la confidence que son beau-père est un vieux cochon dont le comportement a fait beaucoup de mal à sa famille, qu'il a trompé sa belle-mère un nombre incalculable de fois, qu'il buvait, claquait des sommes insensées dans un train de vie bien au-dessus de ses moyens, et que tout compte fait, une petite salve d'insultes serait sans doute bien méritée. Elle marque une pause, réfléchit, puis déclare le plus sérieusement du monde « Je vous laisse 10 minutes ». Nous scellons notre accord d'une poignée de main, puis je reviens dans la pièce, seul. Antoine Barthes sourit toujours. Je me poste devant lui et lui lance joyeusement « Alors, comme ça, tu t'es mal comporté toute ta vie, mon salaud !» Il se met à rire. La situation est lunaire, alors je continue de plus belle. Coprolite, greluchon, malotru, gougnafier, vieux schnock. Il rit toujours et moi aussi. Crétin des Alpes, coque fredouille, fond de benne, crevure, vieux débris. Et je continue comme ça, tant que les mots me viennent. Ces quelques instants sont libérateurs. À travers Antoine Barthes, j'ai l'impression saugrenue de me venger de près d'un siècle de sexisme ordinaire, de petites infamies du quotidien. Et qu'est-ce que ça fait du bien ! Je prends ensuite congé de mon hôte, non sans lui avoir susurré quelques dernières douceurs, puis je remercie chaleureusement Célia, qui me lance en riant qu'elle a appris de nouveaux mots grâce à moi, et qui m'invite à revenir quand je veux. Vous savez, Célia, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Merci du fond du cœur. Je sors dans la rue, prends une grande inspiration. Je me sens joyeuse, plus légère. Je ne pensais pas qu'on pouvait prendre autant de plaisir à traiter quelqu'un de raclure de bidet. On devrait faire ça plus souvent.